rendez-vous avec une pute, tchatché sur internet, le village planétaire. Son tarif est excentrique, mais monsieur a quelques briques sur son compte, donc il peut se la raconter avec ce visage qui a l'air d'être refait. Passons, ce garçon est une caïra, avec ses darons aucun respect, c'est une espèce néfaste. Il a ce style paumé pour essayer de gommer son côté friqué, mais son attitude n'est tout simplement pas naturelle.
Putain, c'est la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Chez moi, c'est la misère.
Ah ouais, t'as trop raison.
Ici, c'est la galère.
Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte.
Yo, des vacances écolo. Saint-Paul en vélo, hollandais, tu connais les magasins bio. L'huile d'olive aux herbes de Toscane. Une nouvelle pile de livres importée de Boston. Sur mesure les costumes dans des restos chics en guest star. Feste avec la fille de Bill Clinton. Un solarium déverse des pluies de paillettes d'or, virant de l'orange mauve selon l'emplacement de notre planète par rapport à ses astres. Moulure au plafond dans les chambres, exposée plein sud, très vaste. La grande classe Nestor écarte tout facteur déstabilisant, rate pour son épanouissement personnel. Le cocktail de la réussite est générationnel, le fait d'être ponctuel, toujours fonctionnel. Estelle complètement chez père, sous acide, avale des barbituriques pour redescendre.
Putain, c'est la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Chez moi, c'est la misère.
Ah ouais, t'as trop raison.
Ici, c'est la galère.
Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte.
Elle traîne dans des squats d'artistes. Elle teint ses cheveux en rouge pour se donner l'impression qu'elle existe. Jamais un sou en poche pour se donner l'impression qu'elle résiste à la pression dans la société de consommation. Alors que sa fortune est placée sur un compte en banque, elle critique. Elle écoute Louise Attaque parce que sur scène, ils ont trop la patate. Elle aimerait avoir des potes en banlieue, mais la réalité la rattrape. Elle écoute aussi du rap conscient depuis trop longtemps parce que le système, il est vraiment pas juste et ça la rend pas contente. C'est pas de sa faute si ses parents sont avocats. Elle a pas eu de chance, elle ne comprend pas. Elle aurait bien aimé avoir le choix. En même temps, quelquefois, ça ne la dérange pas de conduire la Laguna de papa pour se rendre à son cours de capoeira. Son petit frère est MC, depuis qu'il boit de la 8-6, il s'invente une vie. Et tous les lundis après le catéchisme, il rêve de Tessie. Il rêve d'avoir des soucis. C'est tellement chic de ne pas avoir de fric. Tu saisis?
Putain, c'est la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Chez moi, c'est la misère.
Ah ouais, t'as trop raison.
Ici, c'est la galère.
Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte.
Putain, c'est la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Chez moi, c'est la misère.
Ah ouais, t'as trop raison.
Ici, c'est la galère.
Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte.
Putain, c'est la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Chez moi, c'est la misère.
Ah ouais, t'as trop raison.
Ici, c'est la galère.
Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte.
How do these words summarize for us the basic tragedy of the poem? Think back to an event in your own life which involved an important decision. Do you feel now that a different decision would have changed things for the better?
Stop the record now at the band. Start the record. At this point.
HDR.
Vous écoutez HDR 99.1
HDR. HDR, le mix de toutes les cultures.
HDR.
And they play it, yeah. Some will take it, yes, again. Team, yeah. Some are tackling it with the white, and some are taking it with the green. They all play for a different team. Some are tackling it with the white, some are taking it with the green. They all play. Them I also started on labor. Can't wait for 4:30. And that's where the problem begins. Oh, some are tackling it with the white, and some are taking it with the green. They all play for a different team. Some are tackling it with the
in the
Et merci d'avoir choisi RFI. Il est 11h en temps universel, 13h à Paris.
Mathieu Vendrely.
Bonjour. Bonjour à toutes et tous, RFI midi, 2h30, ensemble pour faire le tour de l'actualité dans le monde, l'essentiel de ce jeudi 4 juin, avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux sur tous les continents. Nous irons par exemple au Sénégal, le Sénégal qui célèbre les 100 ans de son ancien président Abdoulaye Wade, festivité, colloque à Dakar, ce sera à la Une d'Afrique midi à 12h30, temps universel. Fanny Noiro-Cabré reviendra aussi avec son invité sur la situation en Somalie, d'intenses combats entre les forces gouvernementales et l'opposition ces dernières heures à Mogadiscio. Une décision qui fait débat en France. La célèbre tapisserie de Bayeux, chef-d'œuvre du XIe siècle, quittera finalement la France direction Londres à partir de septembre 2026. Un déménagement provisoire mais aussi très controversé. Dossier dans quelques minutes avec Carmen Lunsman. En Hongrie, ils sont des milliers à vouloir visiter les anciens bureaux de l'ex-premier ministre Viktor Orban. Mais un engouement qui n'a rien d'un hommage. Le reportage de Florence Labruyère dans une vingtaine de minutes.
RFI Midi.
Aux États-Unis, la cigarette électronique devient un véritable problème de santé publique. Mal encadrée, mal contrôlée, la vape est en passe de devenir aussi problématique que la cigarette traditionnelle.
On sait que les cigarettes électroniques au goût de fruits ou de bonbons attirent particulièrement les enfants. L'industrie du tabac et les fabricants de nicotine le savent très bien. Et en réalité, ils cherchent délibérément à séduire les enfants parce que c'est un type de clientèle qu'ils essaient de développer.
RFI Atlanta, le reportage Edouard Maille à 13h15, temps universel. Et nous aurons aussi à Buenos Aires, nous irons aussi à Buenos Aires, où des dizaines de milliers d'Argentins et surtout d'Argentines sont descendus hier dans les rues pour manifester contre les violences faites aux femmes. Théo Conscience nous racontera. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour commencer, c'est l'heure du journal international présenté aujourd'hui par Candice Mazotomazic. Bonjour Candice.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
À la une aujourd'hui, la mort d'un casque bleu au Liban.
Oui, il s'agit d'un militaire de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies dans le pays. Il a succombé à ses blessures ce matin après avoir été touché la veille par des obus de mortier près de Marjeyoun dans le sud du pays. Deux autres soldats de la paix ont été évacués vers une installation médicale de la force onusienne. Et la FINUL, elle, dit avoir ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes de cet incident. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant Paul Khalife. Bonjour Paul.
Bonjour Candice, bonjour tout le monde.
En direct de Beyrouth, Paul, la mort de ce casque bleu intervient quelques heures seulement après la fin d'un nouveau round de négociations, négociations au cours desquelles les délégations libanaises et israéliennes avaient pourtant convenu d'un cessez-le-feu.
Oui, c'est une impression de déjà-vu au Liban. Après chaque round de négociation, un cessez-le-feu est annoncé et la violence redouble d'intensité entre l'armée israélienne et le Hezbollah. En réalité, les cessez-le-feu décrétés sont couplés de conditions rédhibitoires. L'arrêt des attaques du Hezbollah d'une manière unilatérale, le désarmement du parti chiite et son retrait du Liban Sud. La quadrature du cercle est encore plus facile à résoudre, vu que le Hezbollah demande, lui, un arrêt simultané des hostilités, exige un retrait israélien total et estime que la question du désarmement est une affaire interne libanaise. Ce nœud gordien est à l'origine de l'intensification des combats. Les réalités du terrain le prouvent. Les belligérants continuent de s'affronter avec rage sur tous les points de contact. Les avions, les drones et l'artillerie israélienne ont pilonné depuis ce matin des dizaines de cibles dans différents secteurs du sud Liban et dans la plaine de la Bekaa. Les Israéliens ont aussi interdit aux habitants de franchir vers le sud le fleuve Zahrani, situé pourtant à 40 km de la frontière. Le Hezbollah n'a pas chômé non plus. Il continue de harceler les troupes israéliennes avec des drones suicides, des roquettes et des obus.
Paul Khalife en direct de Beyrouth, merci beaucoup pour ces précisions et puis réactions. À l'instant, des gardiens de la révolution, ils continuent aussi d'exiger le retrait d'Israël au Liban. Et pendant ce temps, les pourparlers entre Washington et Téhéran continuent aussi de patiner après plus de 3 mois d'hostilité. Le guide suprême se félicite de l'humiliation profonde que l'Iran a fait subir à ses ennemis. Dans un message écrit, Mojtaba Khamenei appelle à rester ferme et lucide. Une immense artiste qui avait transformé une enfance iranienne en fable universelle. Les mots d'Emmanuel Macron après la mort de Marjane Satrapi, le président français qui adresse ses condoléances émues ce jeudi. L'autrice franco-iranienne de la BD et du film Persepolis s'est éteinte à l'âge de 56 ans. C'est sa famille qui l'a annoncé à nos confrères de l'agence France Presse.
Quand la guerre au Moyen-Orient vient perturber l'ouverture d'un centre culturel en Corée du Sud.
C'est le célèbre musée parisien du centre Pompidou à Séoul qui se retrouve épinglé pour son partenariat avec l'industrie officielle de l'armement coréen, Hanwha. Mais le problème pour les manifestants venus perturber l'ouverture de ce centre ce jeudi, c'est que ce marchand d'armes collabore avec Elbit, un industriel militaire israélien. Correspondance à Séoul de Célio Fioretti.
Une ouverture au public mouvementée avec les premiers visiteurs devant se faufiler entre les manifestants. Kim Bo-li, à la tête du groupe réuni aujourd'hui, keffiyeh sur les épaules, appelle le musée parisien à abandonner l'industriel de l'armement coréen Hanwha.
Cette entreprise coopère avec des sociétés israéliennes considérées comme complices de crimes de guerre contre les Palestiniens. Elbit Systems, Elta Systems et Israel Aerospace Industries. C'est pourquoi nous exigeons que Hanwha mette fin à sa coopération avec Israël dans le cadre du génocide en cours. Et nous demandons que le Centre Pompidou en France rompe son contrat avec la fondation culturelle Hanwha.
Au cœur des critiques contre le musée et l'entreprise, la notion d'art washing que nous explique Jang Eun-young, artiste coréenne présente dans la manifestation.
L'art washing, c'est-à-dire l'utilisation de la culture pour blanchir des violences au profit d'intérêts politiques ou économiques, est scandaleux. Aucun professionnel de la culture ne doit l'ignorer.
Récemment, le président sud-coréen Lee Jae-myung a eu des mots forts contre le gouvernement israélien, critiquant son premier ministre Benjamin Netanyahou de criminel de guerre et a déclaré envisager son arrestation s'il venait en Corée du Sud. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Il est précisément 14h07 à Kiev. La suite du journal de Candice Mazotomazic et la guerre en Ukraine. Également à la une de l'actualité, la riposte de Kiev s'intensifie encore ce jeudi.
Notamment en Crimée annexée où les autorités locales ont recensé la mort de 4 personnes dans des frappes ukrainiennes. Une nouvelle attaque après une nuit d'affrontement entre les deux belligérants et au lendemain de tirs de drones de Kiev sur des sites énergétiques de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville qui accueille depuis hier le Forum économique international. Alors comment imaginer dans ce contexte une résolution du conflit et surtout qui pour mener des négociations? Parmi les noms évoqués, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, proche de Vladimir Poutine. Mais Julien Chavanne, d'autres profils seraient envisagés.
Le nom d'Angela Merkel a circulé un temps, mais l'ex-chancelière allemande ne sera pas l'émissaire des Européens à Moscou. La formule qui tient la corde en ce moment dans les milieux diplomatiques serait d'avoir un trio, France, Royaume-Uni, Allemagne. L'hypothèse est relancée par des sources anonymes à Berlin qui y voient une fenêtre d'opportunité. La Pologne pourrait rejoindre ce trio pour associer les pays de l'Est de l'Europe. À Paris, Emmanuel Macron pousse depuis longtemps pour reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine. Il va redevenir utile de lui parler, glissait le président français il y a 5 mois. Mais l'Élysée ne sait toujours pas quand ce sera le bon moment. Autrement dit, quand est-ce que Vladimir Poutine sera suffisamment en position de faiblesse pour que ces négociations soient vraiment efficaces? Le piège, c'est de s'engager trop tôt avec le Kremlin. Le risque, se faire embarquer dans des discussions stériles, instrumentalisées par Vladimir Poutine pour gagner du temps. C'est précisément ce qui est arrivé à Donald Trump, qui s'est totalement détourné de la guerre en Ukraine.
Les précisions signées Julien Chavanne. Dans le reste de l'actualité, 4 députés néo-zélandais interdits de territoire en Chine après une visite à Taïwan. Les élus s'étaient rendus sur l'île des Bumets. C'est un acte d'ingérence selon Pékin qui revendique ce territoire. Wellington a exprimé sa surprise avant de réitérer son soutien à cette revendication chinoise sur Taïwan.
Il y a toujours plus d'ultra-riches à travers le monde. C'est ce qu'indique le dernier rapport du Capgemini Institute.
Mais le nombre de millionnaires et leur fortune ont continué de croître en 2025 pour atteindre de nouveaux records. La population des ultra-fortunés, c'est-à-dire les personnes disposant d'au moins 30 millions de dollars, a progressé de 9,4%. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
Et ils sont désormais 250 000 à atteindre cette fortune.
Oui, alors il est souvent assez difficile pour nous de faire la différence entre riches et ultra-riches. Il y a pourtant un monde entre ces deux catégories. Pour Capgemini, une personne riche possède au moins 1 million de dollars d'actifs investissables hors résidence principale. Les ultra-riches disposent, eux, d'au moins 30 millions de dollars. Et dans les deux cas, leur nombre progresse fortement. À l'échelle de la planète, il y a 2 millions de millionnaires supplémentaires et ils se concentrent surtout aux États-Unis puisque le pays a produit 736 000 millionnaires de plus en 2025, alors que la région Asie-Pacifique affiche la plus forte croissance régionale en termes de patrimoine. Cette nouvelle vague d'enrichissement est portée par la bonne santé des marchés financiers, notamment l'enthousiasme autour de l'IA et des semi-conducteurs. secteur. Autre raison de cette progression, les plans massifs d'investissement promis dans l'industrie de la défense. Mais la richesse se concentre surtout au sommet. Les ultra-riches, qui possèdent donc au moins 30 millions de dollars, sont désormais près de 250 000 dans le monde. Vous l'avez dit, aucune autre catégorie de patrimoine n'a progressé aussi rapidement. Et cela pour la deuxième année consécutive. Ils concentrent désormais 34,8% de la richesse mondiale.
Anne Verdaguet du service économie de RFI.
Des inégalités de richesse, Candice, qui ont souvent des conséquences sur la santé des plus pauvres.
Et puisque selon votre revenu, vous n'avez pas les mêmes chances de contracter un cancer du poumon, par exemple, ou encore un cancer de la prostate. C'est ce qu'explique une étude publiée ce jeudi par le ministère français de la Santé et du Travail. Et Thomas Douéré, c'est le dépistage et les facteurs de risque qui expliquent ces inégalités.
L'une des premières sources d'inégalité face au cancer est le mode de vie, selon Romain Varnier, oncologue au centre Léon Bérard de Lyon, qui a participé à l'étude.
Les personnes les moins favorisées vont davantage faire des cancers du poumon ou des cancers ORL qui vont être liés au tabac ou à l'alcool, par exemple. Et on sait que c'est des maladies beaucoup plus compliquées à traiter.
Résultat, les 10% les plus pauvres ont presque deux fois plus de chances de contracter un cancer du poumon que les 10% les plus riches, qui, eux, ont plus de chances de contracter des cancers du sein ou de la prostate. Des cancers qu'on sait soigner s'ils sont repérés tôt. Et justement, les personnes aisées sont plus enclines à se faire dépister.
On sait que c'est des personnes davantage insérées, qui ont davantage de connaissances et d'informations par rapport au dépistage, et qui vont être plus demandeuses de le réaliser, qui vont avoir davantage de contact avec le milieu médical.
Ce qui augmente les chances de guérison. Les personnes les plus aisées atteintes d'un cancer qui touche plusieurs tissus ont deux fois moins de chances de contracter une forme agressive que les personnes les plus modestes.
On va trouver la maladie à un stade beaucoup plus précoce, donc elle va être de plus petite taille et plus facile à traiter.
Mais se faire dépister peut être coûteux et décourager les personnes les plus modestes. Conséquence, les plus pauvres ont plus de chances de contracter des cancers qui, dans deux cas sur trois, entraînent la mort dans les cinq ans.
Les précisions de Thomas Douéré pour refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il est 13h12 ici à Paris, RFI Midi. Continue avec vous, Mathieu Vendrely.
Merci Candice, Mazot, Thomasic. À tout à l'heure pour un nouveau journal. RFI Paris, 13h12. Et d'abord, comme chaque jour, on va tâcher d'y voir plus clair hein, sur la Fabrique du Monde. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
La Fabrique du Monde avec vous. On prend la direction aujourd'hui de la Russie, où le président Vladimir Poutine investit massivement dans la recherche sur la longévité.
Oui, vaincre et la mort est une passion du maître du Kremlin. On connaissait déjà l'obsession de Vladimir Poutine pour son corps, sa santé. Pendant des décennies, il a aimé se présenter comme un dirigeant viril. Et pendant la pandémie du Covid, il prenait des précautions qui semblaient parfois démesurées. On se souvient notamment de la longue table à laquelle il recevait ses invités. Alors, ce que l'on sait moins, c'est son rêve d'immortalité. Une enquête du Wall Street Journal nous apprend que le président russe est un adepte de la cryothérapie, une pratique qui consiste à exposer brièvement le corps à des températures très basses l'année dernière. Il a également confié à son homologue chinois Xi Jinping, lors d'une conversation privée, mais captée par un micro resté ouvert, que les êtres humains pourraient devenir immortels grâce aux transplantations d'organes.
Et Arim, ce rêve d'une vie éternelle est devenu un projet politique, voire une priorité nationale.
Oui, sous l'impulsion, évidemment, de Vladimir Poutine, la Russie a investi 26 milliards de dollars dans la recherche sur la longévité. Officiellement, il est question des nouvelles technologies de préservation de la santé. Alors, ce programme est piloté, entre autres, Mathieu, par la fille aînée du président. Alors, comment retarder la mort ? Eh bien, les scientifiques russes travaillent notamment sur la bioimpression, c'est-à-dire la production artificielle de tissus, voire d'organes. Ils explorent aussi des thérapies génétiques destinées à ralentir le vieillissement cellulaire. Autre piste, faire pousser des organes humains dans des cochons nains. Objectif affiché du Kremlin, c'est de pouvoir remplacer certaines parties du corps d'ici à 2030.
Et ce projet n'est donc pas uniquement centré sur la santé de Vladimir Poutine, il s'inscrit, j'allais dire, plus largement dans une politique démographique.
Exactement, car comme dans beaucoup d'autres pays, la natalité recule en Russie. À cela s'ajoute un taux de mortalité parmi les plus élevés du monde. Un homme russe peut espérer vivre en moyenne 68 ans, soit 12 ans de moins qu'un Français, par exemple. Ce déclin démographique inquiète beaucoup Vladimir Poutine, sans parler du fait que la guerre en Ukraine a déjà coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et poussé plus d'un million d'habitants à quitter le pays.
Et pour l'instant, faut être clair, on n'a peu d'informations sur l'efficacité de ces efforts scientifiques pour ralentir le vieillissement.
Oui, les recherches restent assez opaques, contrairement à ce qui se fait déjà aux États-Unis, hein, où de nombreux milliardaires de la tech rêvent aussi de l'éternelle jeunesse.
Le mix de toutes les cultures.
Ne bougez plus.
Vous écoutez Radio HDR.
Radio HDR.
Le mix des cultures.
Le mix de toutes les cultures.
Est-ce que vous m'entendez bien ?
Radio HDR. 99.1 FM.
C'est sur le 99.1 FM.
Est-ce que c'est clair ?
Yeah.
better feel. Woman, I'm telling you, I love you endlessly, me now. Pay them the mind, me now go hear what them a say. Donkey ears now since me and your dad.